7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bienvenue, 7 milliards de voisins, vendredi 5 juin, journée mondiale de l'environnement, à 6 mois de la conférence de Paris sur le climat, COP21. Eh bien, nous enregistrons cette émission à Bruxelles à l'occasion des journées européennes du développement et nous nous interrogeons sur les villes du Sud. La très forte croissance urbaine, notamment dans les métropoles africaines, peut-elle cohabiter avec la lutte contre le changement climatique? Ces villes construites principalement horizontalement, dont les embouteillages s'étendent sur de longs rubans de goudron, sujettes aux inondations ou aux sécheresses, peuvent-elles devenir climato-compatibles? Comment financer aussi les nouveaux aménagements qui rendront ces villes vivables, peut-être en 2050 et si possible avant? Et enfin, quand on sait que près de la moitié de la croissance urbaine se fait dans les bidonvilles, quel bénéfice réel pour les habitants? Alors nous allons en parler avec nos invités, des acteurs engagés. Le maire de Dakar, bonjour Khalifa Sall.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être parmi nous. Vous êtes élu de la capitale sénégalaise depuis 2009. Vous avez d'ailleurs axé votre deuxième campagne en 2012, entre autres, sur Dakar, ville durable.
Absolument, tout à fait.
Et d'ailleurs, il faut signaler que Dakar fait partie des Rockefeller Cities.
Oui, ville résiliente.
Et c'est la seule ville en Afrique subsaharienne avec Durban en Afrique du Sud. Jean-Pierre Elong-Bassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de Cité Gouvernement Locaux Unis à CGLU Afrique. Donc, vous œuvrez pour donner du pouvoir aux habitants grâce à la gouvernance locale. Est-ce que j'ai bien résumé?
Oui, c'est ça, ça va.
Cette association touche près de 320 millions d'Africains tout de même.
Oui.
Et côté Europe, Alexandre Pollack, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la Commission européenne en charge de l'aide au développement et de l'aide humanitaire. Et Philippe Camille Akoa, également parmi nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunal. C'est le FECOM au Cameroun.
Tout à fait.
C'est un établissement public.
Le FECOM est un établissement public qui sert à accorder des financements aux projets communaux et qui également, dans son système de fonctionnement, permet également de mettre des ressources directes à la disposition des communes pour leur fonctionnement.
Alors on va commencer avec vous, monsieur le maire Khalifa Sall, maire de Dakar. Quelle prise de conscience aujourd'hui pour vous en tant qu'élu local? Quelles actions engagées pour votre ville à Dakar sur ce thème du développement durable et des enjeux environnementaux?
La réalité nous impose déjà une vision, une stratégie pour que nos villes, comme vous l'avez dit, puissent être des villes climato-compatibles. Comme toutes les villes africaines, Dakar est une ville jeune. C'est une ville qui a eu la croissance difficilement maîtrisée et qui exige et des populations et de leurs élus d'harmoniser et de coordonner leurs actions pour que nous puissions être dans une perspective proche, une ville belle, une ville aménagée, une ville étant un cadre de vie où chacun peut s'épanouir. Pour ce faire, c'est d'abord au niveau du leadership que des efforts ont été faits. Une gestion participative, inclusive, qui promeut l'implication et la responsabilisation citoyenne. Une gestion qui permet de partager une certaine vision de Dakar. Parce que c'est une ville qui a la chance d'avoir été conçue par des gens qui lui avaient donné une destinée, ville cosmopolite, ville porte d'entrée de l'Afrique. Donc aujourd'hui, il s'agit, après 50 ans d'indépendance, de consolider cet héritage, mais aussi de nous mettre en perspective, puisque nous sommes rattrapés par l'exode rural, par la jeunesse de la population et par cette urbanisation difficilement maîtrise.
Mais après les réformes sur la décentralisation engagées au Sénégal, finalement aujourd'hui, quel est le pouvoir d'un maire d'une ville comme Dakar sur des projets de développement durable, climat?
Bon, vous connaissez ma position sur l'acte 3. Je suis pas
contre la décentralisation.
Je suis pas contre l'acte 3. Ce qui m'a gêné dans la conduite de cette politique, c'est que aujourd'hui, dans les politiques de développement urbain, la tendance mondiale est à la métropolisation. L'acte 3 concernant la ville était à une fragmentation de la ville. la tendance mondiale est à la culture de la continuité, de la solidarité territoriale. Mais ce que l'acte 3 a de bon pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Dakar est ville et département. Donc, elle peut s'occuper des questions macro. Donc, elle va être un lieu d'harmonisation, de mutualisation des politiques territoriales.
Oui.
Et elle va maintenant avoir des compétences en matière d'environnement.
Restons sur du concret, Khalifa Sall. On dit que des pluies importantes sont attendues en fin d'hivernage cette année. L'année dernière, ça s'est pas trop mal passé, en tout cas surtout par rapport à 2013. Qui s'occupe de curer les canaux d'évacuation des eaux pluviales? Comment vous gérez cette attente des inondations qui sont souvent inéluctables à Dakar, pour parler des problèmes qui concernent les Dakarois à l'heure actuelle?
Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'État a fait de gros efforts. C'est un processus entamé depuis plusieurs années, construire des infrastructures qui permettent de capter et de conduire les eaux de pluie. Et l'année dernière, effectivement, nous avons eu moins de problèmes et nous pensons que cette année, nous ferons encore mieux.
Alexandre Polak, comment la Commission européenne appréhende la situation des villes du Sud? On vient de voir l'exemple de Dakar. Il y a évidemment des villes en Afrique dont les urgences sont bien plus grandes dans ce contexte de croissance urbaine.
De manière globale, on sait qu'une majorité de personnes vivent à la ville et ça va faire que s'accentuer. Donc par définition, la Commission européenne, qui reste le bailleur de fonds principal de lutte contre la pauvreté dans le monde, et c'est pour ça qu'on est ici à Bruxelles pour ces journées européennes du développement, a par définition à se concentrer, si elle veut essayer d'aider les États, les collectivités locales, les ONG, à lutter contre la pauvreté, à améliorer la condition des gens, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans l'accès aux services de base. Par définition, il faut qu'on prenne en considération cette dimension-là. On parlait du Sénégal, j'ai eu la chance de visiter votre beau pays avec l'ancien commissaire européen, où par exemple, on a lancé un projet de réalisation d'infrastructures sanitaires dans la ville d'Embourg.
Au sud de Dakar.
Au sud de Dakar. Où là, justement, on essaye que notre aide se concentre sur les zones où vraiment, soit les collectivités locales ont des difficultés, on peut les appuyer, soit l'État a des difficultés, on peut les appuyer, où il y a une véritable valeur ajoutée pour mettre tous les acteurs autour de la table et essayer d'avancer sur des projets concrets. On n'est pas là avec des projets clés en main, on est là pour essayer d'apporter des réponses concrètes à la population. Et ce qui est important aujourd'hui, parce que là on parle de la ville, mais c'est qu'on est dans une année, et les gens qui nous écoutent s'imaginent que c'est stratosphérique, mais très très important, parce qu'on est ici à Bruxelles, parce que les États de l'Union européenne et d'autres experts sont là pour essayer de dire, on essaye de les convaincre, nous, Commission européenne, qu'il faut continuer avec cette aide au développement qui peut être menacée, que tous les États doivent influencer, parce que par exemple, dans des bidonvilles, cette aide, avec les collectivités locales, avec les acteurs, peut vraiment sauver des vies, et plus que ça, après, améliorer les conditions et sortir des gens de l'extrême pauvreté et leur donner un meilleur futur. Et on arrive à des villes, même en Afrique, qui peuvent devenir soutenables. Et on est dans l'année clé, puisque dans 2 mois, on a les négociations qui vont définir les nouveaux objectifs pour les 15 ans à venir de la lutte contre la pauvreté. Et on a évidemment ce grand sommet climat de 2015. Donc les Européens ont une grosse responsabilité à jouer. Je suis très heureux et honoré de partager le micro avec 3 personnes qui œuvrent sur le terrain dans le domaine urbain.
Alors justement, vous parlez de villes soutenables. Vous avez cité le cas d'une petite ville, Mbourg, comparé aux métropoles et aux grandes capitales. Jean-Pierre Elombassi, vous justement avec la CGLU Afrique, vous œuvrez pour la gouvernance locale en général et pas seulement pour l'acceptabilité des grandes villes et des grandes capitales. C'est quoi une ville soutenable pour vous à la CGLU Afrique
Soutenabilité, ça veut dire être capable de vivre sur ses ressources, sur la longue durée, et être capable de rebondir après les chocs. Et donc, cette soutenabilité se définit partout pareil. Il n'y a pas une soutenabilité européenne, une soutenabilité des villes du Sud. Elle se définit partout pareil. Les contextes ne sont pas les mêmes. La croissance urbaine en Afrique, elle est inédite dans l'histoire. Et ça, c'est important de le souligner. Lors du peuplement de l'Amérique, il y a eu des périodes de pics de croissance urbaine, mais véritablement, des croissances urbaines de 7 à 8% sur 20 ans, ça ne s'est vu qu'en Afrique. Donc, c'est inédit. Deuxièmement, la croissance se distribue presque de manière égalitaire entre les petites villes, les grandes villes et les villes moyennes. Et malheureusement, l'attention sur les grandes villes a eu tendance à masquer cette autre réalité urbaine que constituent les villes moyennes et les petites villes. Troisièmement, cette croissance s'est nourrie de l'exode rural. Et cet exode va continuer parce que au même moment où la croissance urbaine se passe en Afrique, se passe aussi la croissance rurale au plan démographique. Donc nous sommes aussi dans un contexte dans lequel, alors qu'en Europe, la croissance urbaine a eu tendance à vider les campagnes, en Afrique, elle diminue la croissance dans la campagne sans la vider. Donc nous avons affaire à un paysage dans lequel, malheureusement, la transition démographique n'est pas arrivée à son asymptote. Et pendant qu'on est au cœur de cette transition démographique, les deux milieux de vie croissent également. Même s'il y a effectivement une plus grande part de la population qui va vivre dans les villes par rapport aux campagnes. Et on sait que c'est vers les années 2050 qu'on atteindra l'asymptote. À ce moment-là seulement, les villes seront réellement majoritaire par rapport aux populations rurales.
Philippe Akoa, vous dirigez donc un établissement public, le FECOM au Cameroun. Vous partagez l'analyse de Jean-Pierre Elongbassi sur la nécessité aussi de s'occuper des villes moyennes et des petites villes.
Oui, c'est un point de vue que nous soutenons justement au niveau du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, parce qu'il faudrait dire que notre établissement public repose davantage sur les lois de décentralisation au Cameroun et qui veulent que le développement se fasse de façon équilibrée. Donc les financements que nous apportons aux communes et aux villes du Cameroun, nous mettons un accent pour que ils soient faits de façon équilibrée, parce que en fait, en ne résolvant que les problèmes des grandes villes, on oublie effectivement les villes moyennes et les petites villes qui elles également sont celles qui alimentent ces grandes villes. Donc en trouvant un ensemble de solutions au niveau local, donc au niveau de chaque ville, nous pensons également que ça pourrait être un moyen par lequel les grandes villes pourraient également trouver des solutions aux différents problèmes qui s'y posent.
Alors, bien évidemment, les habitants sur le continent africain, mais pas seulement, cherchent à gagner les villes pour avoir un meilleur accès à l'éducation, pour avoir un meilleur accès à la santé, pour avoir du travail. Ça, on connaît les raisons principales qui poussent les gens à vivre en ville. Ensuite, arriver en ville se pose des questions inéluctables, en tout cas dans les grandes villes, permettez-moi, mais c'est vrai que les problèmes sont peut-être moins aigus dans les petites villes. Problèmes de transport, problèmes d'habitat, problème d'accès à l'énergie. On en parle dans quelques instants avec vous.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins. Nous sommes à Bruxelles à l'occasion des Journées européennes du développement et c'est l'occasion pour nous de nous interroger sur cette croissance urbaine dans les villes africaines. Jean-Pierre Elongbassi, vous nous disiez il y a quelques minutes que cette croissance était inédite de par sa force et puis aussi sur sa durée et sa rapidité également. Peut-être parlons des vrais problèmes maintenant qui concernent les habitants. Khalifa Sall, vous êtes maire de Dakar. Il y a un problème, et pas seulement à Dakar d'ailleurs, d'accès à l'énergie, des délestages fréquents. Comment est-ce qu'une ville comme Dakar peut à la fois sortir du manque d'énergie, des délestages d'électricité, tout en restant sur des objectifs, puisqu'on le sait maintenant, les villes africaines et ailleurs seront obligées de rentrer dans un cadre de lutte contre le réchauffement climatique. Comment se posent les défis pour vous en tant que maire?
L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité sont... ont une gestion ambivalente, c'est-à-dire que c'est l'État qui produit et qui transporte l'électricité. Donc ce sont les collectivités locales qui s'occupent des politiques d'accès à l'électricité et à l'éclairage public. Donc parfois le vrai problème, quand vous parlez de délestage, cette question ne concerne pas la collectivité locale. Ce que nous devons faire, et c'est là où vous avez raison, c'est que nous avons une croissance urbaine assez importante. Et il nous faut aller très vite pour faire en sorte que les populations qui viennent s'installer aient accès à l'eau et accès à l'électricité. Nous devons aller très vite aussi pour que, véritablement, les rues soient propres. Parce que vous parlez de cadre de vie et d'environnement. C'est relativement, pour une ville comme Dakar, les questions concernant les inondations dans certains quartiers. Le drame, c'est que nous sommes un pays sahélien qui a connu près de 20 ans de sécheresse et l'exode rural a conduit les populations à s'installer dans les zones inondables de l'agglomération.
Mais sur l'électricité, comment est-ce que vous pouvez suivre la démographie urbaine de Dakar, hein, où, vous l'avez dit, il faut aller vite, tout en restant climato-compatible?
C'est là où j'ai des problèmes avec ce que vous mettez dans climato-compatible. Je sors d'une session où on parlait de l'énergie, Jean-Pierre sourit parce que tout le monde connaît un peu ma position là-dessus. Quand vous dites climato-compatible, c'est selon vos critères ou selon nos contraintes? Et moi, j'appelle cela contrainte. Aujourd'hui, quand nous devons éclairer nos villes, quand nous devons faire en sorte que nos populations aient accès à la ville, nous aurions bien voulu offrir à nos populations de l'énergie propre, de l'électricité propre. Mais nous ne pouvons pas en soutenir les coûts. Donc nous avons tous, nous faisons le choix généralement comme élus, de mettre des réseaux thermiques, les réseaux traditionnels, qui coûtent plus cher, qui polluent plus. Bien sûr, nous ferons l'effort après, parce que vous savez, l'énergie solaire coûte cher. C'est surtout au niveau des intrants qu'on a le problème. C'est la même chose pour l'érosion côtière. C'est la même chose pour les inondations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une ville comme Dakar, le choix est de faire un réseau d'évacuation, d'abord de collecte et d'évacuation. La construction du réseau de collecte ne pose pas de problème. La construction de l'évacuation pose problème parce que nous sommes une presqu'île et nous évacuons dans la mer. Si nous devons évacuer de l'eau collectée dans la mer, on pollue la mer. Donc, il nous faut des centres de gestion de l'eau, de traitement de l'eau.
Et vous avez en plus des sols argilo-sableux,
vous avez compris,
ce qui n'arrange rien pour les
Dakar
inondations.
La région Dakar est une zone magmatique.
C'est-à-dire que l'eau s'évacue pas,
voilà,
c'est ça. Hein?
Voilà. Donc nous sommes une zone magmatique et donc on a de vrais problèmes pour que l'eau pénètre. Donc nous sommes condamnés à mettre en place un système de collecte de l'eau et un système de traitement de l'eau avant, non pas de le jeter en mer, mais de la réutiliser. Parce que, comme je dis toujours, dans un pays sahélien, c'est aberrant, pour ne pas dire plus, que de jeter de l'eau dans la mer alors qu'on en a besoin pour développer l'agriculture urbaine, pour développer d'autres activités liées à l'eau transformée, surtout qu'aujourd'hui, la FAO a décrété que l'eau traité à un niveau 3 est compatible avec une agriculture.
Et aberrant de ne pas utiliser le soleil également. Vous avez combien de jours d'ensoleillement sur l'année?
24 heures.
Beaucoup plus qu'à Abidjan.
Avons, bien sûr. Mais c'est là où je dis la contrainte, c'est l'accès. Je vous donne un seul exemple. Nous sommes en train de terminer le réseau d'éclairage public de la ville. Nous avons essayé de créer 1000 points lumineux solaires. Les 1000 points lumineux solaires, avec le coût de ces 1000 points lumineux solaires, on aurait fait 3000 points lumineux thermiques.
Alexandre Pollack, de la Commission européenne.
Je suis très content qu'on arrive à la question de l'énergie, parce qu'évidemment, c'est celle où la demande, nous, un de nos partenaires africains, est la plus forte, l'accès à l'énergie, en milieu rural autant qu'urbain. Et je venais donner un exemple très concret de la centrale photovoltaïque qui sera peut-être la principale d'Afrique de l'Ouest, qu'on a cofinancé au Burkina Faso, dans la banlieue de Ouagadougou. Et là, ça a été possible, et on en parlera peut-être parce que c'était un montage financier un peu innovant, où là, on se rend compte qu'il y a même un intérêt des banques d'investissement. Et le seul fait pour nous d'utiliser parfois nos dons, nos subventions, garantit l'investissement et donc fait que la Banque européenne d'investissement, ça peut être la Banque africaine de développement.
Sous-entendu quoi? Quand l'Europe y croit, derrière l'Europe, ça suit?
Ça suffit pas. Mais c'est-à-dire quand plusieurs y croient, souvent c'est la Banque africaine de développement elle-même qui fait énormément de ce genre de problème. Quand plusieurs acteurs se mettent autour de la table et travaillent ensemble alors qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble, on arrive à des résultats inattendus. Ça est un peu le cas dans le domaine de l'énergie. C'était une première et on se rend compte qu'avec des partenariats publics-privés, on peut arriver à des résultats quand même difficiles, mais qui peuvent changer un peu la donne en termes énergétiques.
On va y revenir, hein, parce que le sujet de l'électricité est quand même un sujet qui intéresse énormément nos auditeurs, d'autant plus que vous le disiez, fournir de l'électricité, ça coûte cher, c'est polluant, et en plus quand il y a des lestages à Dakar, qu'est-ce qu'on fait démarrer les générateurs avec du carburant. Vous restez avec nous, quel développement durable, quelle politique climat dans les villes du Sud, les habitants peuvent-ils attendre une amélioration de leurs conditions de vie dans ces villes en pleine croissance de population, 7 milliards de voisins. Nous nous retrouvons dans 3 minutes sur RFI, juste après le flash, avec nos invités.
On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines d'ailleurs. Émission enregistrée à Bruxelles à l'occasion des Journées du Développement de l'Union Européenne. Gros plan sur les villes du Sud aujourd'hui, en cette Journée Mondiale de l'Environnement et à 6 mois du sommet de Paris COP21 sur le climat. On peut s'interroger sur la croissance urbaine de ces villes, mal maîtrisée, quelle politique de lutte contre le changement climatique. Nous en discutons avec nos invités, Alexandre Pollack, porte-parole de la Commission Européenne, Khalifa Sall, maire de Dakar, Jean-Pierre Elongbassi de la CGLU Afrique, hein, une association qui œuvre pour promouvoir la gouvernance locale et qui concerne 320 millions d'Africains, et Philippe Kamiakoa, directeur au Cameroun du FECOM, c'est le Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale, et qui œuvre lui aussi pour donner davantage de pouvoir et de gouvernance aux communes. Donc pas seulement les grandes villes, hein, mais également les villes secondaires et les petites villes. On en a parlé en première partie d'émission. Khalifa Sall, vous nous avez dit juste avant le flash que, bon, climato-compatible, ce mot vous interpellait, hein. C'est une extrapolation probablement qu'on a entendue aussi beaucoup dans la presse, mais Alexandre Pollack, vous étiez en train de lui répondre, notamment sur la question primordiale de l'énergie, de l'électricité.
Bah, la question de l'énergie, c'est une question dans le monde entier, hein. J'essayais juste de dire que nous, dans notre aide au développement, qui encore une fois est limitée, ça paraît important, mais c'est limité par rapport aux besoins de la population, donc c'est vraiment juste un appui, mais on a essayé de développer avec nos partenaires, avec les villes, avec les collectivités locales, avec les États, des moyens de financer des projets qui nécessite souvent soit l'intervention du privé, soit l'intervention des banques européennes d'investissement qui n'avaient pas trop tendance à se mettre dans des projets soi-disant de développement. Et je donnais l'exemple de cette centrale photovoltaïque au Burkina Faso. Et
on a plein dans la banlieue de Ouagadougou.
Dans la banlieue de Ouagadougou. Il y a plein d'autres exemples qui sont en train de poindre où on voit qu'il y a un vrai intérêt. Souvent, le problème, c'est que les financements ne viennent pas de sources différentes. C'est-à-dire que les banques d'investissement d'un côté, les agences de l'autre, ne parlent pas ensemble ou ne travaillent pas ensemble sur des projets, mais il y a un intérêt en Afrique et aussi ailleurs. J'ai visité une centrale hydraulique qui était très très efficace au Salvador, où là encore, c'est juste parce que la Banque européenne d'investissement est arrivée, que le financement est venu, et ça a permis de bénéficier à 50 000 personnes. Là, pour le Burkina, c'est 400 000 personnes qui pourraient gagner l'accès à l'électricité, alors qu'elles l'ont pas aujourd'hui.
Dans la banlieue de Ouagadougou. Ce projet, s'il fonctionne, on le saura dans combien de temps d'ailleurs, pour savoir s'il est modélisable, par exemple, pour Dakar.
Chaque contexte est différent, chaque besoin sont différents. Mais en tout cas, oui, en termes de financement, de croisement des financements, c'est déjà un modèle qui est en train d'être utilisé. C'est-à-dire qu'on utilise
public-privé.
Une subvention pour obtenir des prêts. C'est-à-dire que nous, c'est des dons. Je donne un exemple, on donne 1 million de dons qui permettent de générer 8, 9, 10 millions de prêts et donc que le projet se mette en œuvre. Et on appelle ça le mixage de fonds, blending, mais au quotidien, ça veut dire que il y a de l'argent, il y a des ressources, mais elles sont pas toujours mises au service de la population parce qu'on trouve pas les montages pour vraiment que l'investissement soit mis au bénéfice de la population. Et le domaine énergétique est vraiment celui-là. Le privé a peur d'investir parce que c'est des montants trop gros.
Surtout sur l'électricité, on se dit ça sera jamais rentable.
L'aide au développement, les ONG se disent « Oh là là, c'est trop gros, donc je peux pas non plus ». Donc il y a un certain gap. Mais quand les deux se rencontrent en disant « On est prêt à financer que si c'est des projets qui vont vraiment donner l'électricité à des gens qui n'en ont pas accès, pour vraiment focaliser sur la population la plus exclue.
Est-ce qu'on peut faire de l'électricité propre dans des villes africaines aujourd'hui et bankable en termes de financement?
Ben, je vous donne l'exemple de l'énergie solaire, mais il y a d'autres exemples qui peuvent fonctionner. Le solaire est cher, mais il est réalisable, il peut être rentable, mais il demande un certain investissement.
Oui, mais c'est là où moi, je m'excuse de l'interpeller. Quand j'ai parlé de compatibilité et que je me suis interrogé...
Climato-compatibilité.
Voilà, c'est par rapport à nos urgences. Un investissement de 8 millions d'euros permet à 400 000 personnes d'accéder à l'électricité. On peut, avec le même montant, éclairer plus de villages et permettre à plus de personnes d'accéder à l'électricité. Que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Ce que je veux dire, c'est que c'est là où il y a le débat. C'est-à-dire aujourd'hui, les urgences qu'on a sont telles que est-ce que nous sommes tenus de respecter toutes les normes alors qu'on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes urgences.
Vous voulez dire que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est trop cher pour vous par rapport à vos urgences?
C'est trop cher, mais en tout cas, le coût à payer est énorme. Parce que vous êtes à un niveau de recherche de qualité. Alors que nous devons satisfaire la demande du plus grand nombre. Voilà un peu le problème. Tout le monde sait que l'énergie par le charbon n'est pas bonne. Et pourtant, vous avez des pays qui font le choix du charbon. parce qu'ils sont tenus à la gorge, ils ont des contraintes, ils ont des urgences.
Ouais, mais moi ça me fait penser ces débats-là à tout ce qui s'est passé autour de la famine. Et Amartya Sen disait, il n'y a pas de famine parce que on produit pas. Il y a la famine parce que on ne permet pas à tous d'accéder à la production. Mm-hmm. Un Africain rural qui quitte sa campagne pour venir en ville change de niveau de consommation d'énergie. Mm-hmm. C'est 10 fois plus, tout de suite.
Tout de suite.
Et je prétends qu'il y a les moyens dans ce monde pour donner de l'énergie à tous. C'est la volonté qui manque. Et quand on me dit que c'est une question de montage financier, je dis ça aussi, ça manifeste un manque de volonté. Parce qu'en réalité, quand on fait une électrification rurale en France à 100%, je ne suis pas sûr que c'est la capacité contributive du dernier habitant rural de France qui a permis de financer cela. C'est la solidarité nationale. Et la solidarité internationale peut parfaitement permettre à ce que tout le monde ait accès à l'électricité.
Tout est affaire de volonté politique. Nous, on est en difficulté pour essayer de maintenir notre aide au développement à un niveau important parce qu'il y a une pression. Et on doit politiquement avoir ça. Et c'est justement pour ça qu'on essaie de concentrer notre aide au développement sur les pays qui en ont le plus besoin, sur les pays où il y a les plus grandes urgences, et justement sur les pays où cette aide peut vraiment permettre de donner accès à cette population, parce que soit les États, soit les collectivités locales n'ont pas la capacité de le faire. Donc c'est pour ça que, pour donner un exemple, notre aide au développement se concentre encore plus qu'avant sur les pays africains et encore plus qu'avant sur les pays qui ont le plus de difficultés et encore plus qu'avant sur les secteurs où il y a un vrai problème de financement. Donc on essaye, nous, de faire ça. Mais là où je suis d'accord, c'est que c'est pas une affaire d'aide au développement. Tout ça, c'est une question beaucoup plus large de production économique, de production de richesse et comment le modèle économique mondial dans lequel on est et axé aussi sur la solidarité au niveau international et aussi axé sur la durabilité, c'est-à-dire avec les limites de notre planète. Donc la réponse que je voudrais, c'est qu'une énergie qui est bonne pour le père et la mère, mais qui va faire que l'enfant n'aura plus de planète demain, elle a plus de raison d'être. Et c'est pour ça que c'est un vrai débat citoyen. Alors,
Khalifa Sall, pardon, mais je vais vous poser une question très naïve. Vous nous dites, tout ça est trop cher pour les urgences que l'on a. Sous-entendu, vous avez une pression de vos électeurs, bien évidemment. Vous êtes un élu. Par exemple, vous avez sur le continent africain le kilowatt le plus cher de la planète. Les gens se plaignent de leur facture d'électricité, y compris à Dakar. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de proposer une énergie propre qui coûterait d'emblée moins cher aux habitants pour qu'il y ait une adhésion?
J'ai tout à l'heure eu un débat assez difficile avec un député européen, parce que ce qu'il a dit est clair. D'abord, je ne pense pas que c'est par l'aide qu'on va régler cette question. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un partenariat à construire. Et un partenariat, il est gagnant-gagnant. Dans un partenariat, si l'un vous dit « je suis dedans, mais à mes conditions », l'autre doit avoir la capacité de dire « j'en veux pas ». Et ce qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est que dans le cadre de l'énergie, aujourd'hui l'Afrique est convoitée par tout le monde dans ce domaine, hein, nous avons l'initiative Barack Obama, on a l'initiative Borloo, on a Electrify de l'Union Européenne, et c'est là où nous, Africains d'ailleurs, nous devons nous interroger, parce qu'on a les moyens, les opportunités, les capacités, et nous ne sommes pas capables de produire notre propre énergie, il faut que les autres viennent nous aider. Bon, ça, je la referme. Mais tout ça pour dire que, il a dit tout à l'heure que l'Union européenne va investir, nous allons investir, mais à nos conditions. Parce que nous ne pouvons pas mettre l'argent européen dans certains investissements qui ne respectent pas les critères que vous avez. C'est-à-dire, en clair,
la lutte contre le réchauffement climatique.
Voilà, si un pays X ou une ville X veut faire de l'énergie avec le charbon, l'Union européenne ne sera pas dedans. Voilà le vrai problème. Alors que la contrainte que nous avons, nous, oui, c'est ça. Non,
non, mais c'est vrai.
Faut dire les choses clairement.
C'est donc pour nous la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté.
Le vrai problème.
Et tous les bailleurs, d'ailleurs, vont vous poser les mêmes conditions. Quand vous dites que vous êtes largement courtisé par énormément de bailleurs, ils vous poseront les mêmes conditions.
Ah non, c'est pas tous les bailleurs. Non, non, non. C'est pas tous les bailleurs. Cela ne signifie pas que l'Afrique n'aspire pas à un mieux-être. Nous voulons avoir la même qualité, les mêmes conditions de vie que l'Europe. Nous sommes d'accord pour faire ces choix. Mais ce que nous voulons dire, c'est que si l'accès à cette énergie propre handicape notre capacité, nos moyens et les populations à cibler, nous devons réfléchir à des moyens alternatifs. Aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, nous voulons monter une centrale électrique. Cette centrale électrique doit couvrir Dakar. Cette centrale fonctionne au gaz ou au pétrole. Les partenaires qui veulent gagner de l'argent, nous, nous devons leur créer les conditions pour qu'ils en gagnent. Mais nous voulons que le coût de sortie puisse permettre l'accès aux populations. Voilà la seule contrainte qu'on a.
C'est-à-dire que les habitants puissent réduire leurs factures.
Que la population puisse accéder à l'électricité et puisse y accéder durablement. Il faut donc que l'électricité soit de bonne qualité et qu'elle soit à un coût compatible avec les ressources des populations. Voilà notre préoccupation.
Ah oui, mais écoutez,
Jean-Pierre Lombassi.
L'électricité propre, c'est une aspiration. C'est vrai. Si l'Union européenne veut véritablement faire en sorte que ce soit le chemin encouragé, parce qu'apparemment c'est cela, alors elle doit accepter de financer la transition énergétique. Elle doit accepter que on passe d'un système que le maire a décrit tout à l'heure où ben, on n'a pas beaucoup de choix par rapport au thermique et aux fossiles, vers un système vers lequel on a à disposition l'électricité sur énergie renouvelable. C'est une question d'investissement et de volonté politique. Et c'est pour ça que je suis assez réservé sur les montages. Parce que si le montage est simplement de dire on va faire en sorte que il y ait du blending du secteur privé avec les fonds publics de l'Union européenne, si c'est dans le cadre de la transition énergétique, je peux le comprendre, mais alors vous acceptez que le coût à la sortie soit subventionné, parce que si vous le sortez au coût réel,
comme
vous savez très bien, vous savez très bien que on n'ira nulle part et on va retomber sur le passé. Je pense que cette question de volonté politique pour passer à un autre modèle énergétique et qui ne s'arrête d'ailleurs pas au choix technologique au sein de l'énergie, qui concerne les choix de planification physique, qui concerne la manière dont on va se déplacer dans les villes, toute une gamme d'actions d'efficacité énergétique qui doivent être envisagées et pas simplement à propos d'un blending de financement.
Il y a un point où je suis d'accord avec vous. Justement, j'ai dit la volonté politique, vous savez, c'est pas facile parce que nous, quand on investit, on doit convaincre 28 États membres, donc hein, 500 millions de citoyens, un Parlement européen, et on a réussi à les convaincre justement avec la volonté politique de dire il faut aider dans le domaine de l'énergie, que aussi cette aide au développement a un rôle à jouer, parce que l'accès à l'énergie, dans les villes en particulier, c'est un droit fondamental qui conditionne tous les autres. Tout ce qu'on fait dans l'éducation, dans la santé ou autre, si on n'investit pas dans l'énergie, donc c'était juste, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est de la volonté politique, et cette volonté politique, elle doit venir de partout, finalement.
Dans quelques instants, on parle des transports, si vous le voulez bien, les embouteillages, les heures de transport, vraiment un temps gaspillé avec ces villes qui s'étendent à l'horizontale. Nous y revenons dans quelques instants avec vous.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI, émission enregistrée à Bruxelles au moment des journées européennes du développement. Et justement, on parle de cette croissance urbaine dans les villes africaines. Ces villes peuvent-elles devenir climato-compatibles? Et dans ces cas-là, quel bénéfice pour les habitants? On a parlé de l'énergie. C'est vrai qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur l'accès à l'énergie, l'électricité. Hein, c'est le nerf de la guerre. Mais il faut parler aussi des transports. La particularité, je dirais, des villes en Afrique, c'est qu'elles s'étendent. Ça, c'est sûr. On a de la croissance de population, de la croissance visible. Mais à l'horizontale, ce qui veut dire temps de transport accru, problème de transport public, problème de transport particulier. Quelles sont les solutions à venir? Dakar n'est peut-être pas la pire ville en termes d'embouteillage. Bien sûr, ça n'est pas Lagos, ça n'est pas Accra. J'ai des mauvais souvenirs à Accra aussi, voire même Abidjan, mais ça peut être cauchemardesque. Khalifa Sall, maire de Dakar.
Tout à fait, mais bon, il y a cette particularité à Dakar que la politique de transport est co-gérée par l'État et la ville. Il y a ce qu'on appelle le CETUD qui oriente, propose aux collectivités locales, pour ne pas dire parfois même, gère la mobilité urbaine. C'est un problème global.
En tout cas, ça dégage du CO2.
Absolument. Et c'est pourquoi vous avez raison de nous interpeller, parce qu'il y a deux problèmes. Il n'y a pas que les embouteillages. Les embouteillages sont le fait non pas de la voirie et des circuits, De ce point de vue, Dakar a fait de gros efforts. Que ce soit Dakar-ville, comme la banlieue et l'agglomération dakaroise, le problème de la voirie est vraiment très pris en compte. Et aujourd'hui, les divers investissements en cours vont permettre à Dakar d'être plus fluide de ce point de vue.
Avec conurbation Dakar-Thiès-Mbour à terme.
Voilà. Donc, vous l'avez dit. Mais le vrai problème que nous avons, c'est la qualité du parc automobile. C'est ça le vrai problème. Et c'est le problème de toute l'Afrique d'ailleurs. Parce que les gens, au lieu d'aller prendre des véhicules neufs, c'est des véhicules d'occasion. Le parc automobile à Dakar, bon, heureusement depuis 7 ans, on est en train de le renouveler. Mais la vraie cause de détérioration du climat... C'est la qualité du parc.
Quel est le pourcentage de la population qui utilise des transports publics, si on prend la masse de la mobilité?
C'est les deux tiers. C'est les deux tiers, parce que le vrai problème...
Alors, dans
le
transport public, vous mettez aussi beaucoup de choses, non?
Oui, parce que dans le transport public, nous, il est public dans la région, avec Dakar Demdik, et il est privé aussi, parce que l'initiative privée est encouragée par les transports en commun et par les taxis. Mais ce qui caractérise...
Ce n'est pas non plus des transports propres, hein?
C'est ce que j'ai dit. Ce qui caractérise le parc, c'est sa vieillesse, c'est sa vétusté. Parce que c'est généralement des véhicules importés. Mercedes, des cars Mercedes qui ont 30 ans de vie, 40 ans de vie. L'État a depuis mis en place une chaîne de montage à Thiès, qui fait des montages de Tata. Mais la question de l'accès, donc la substitution... n'est pas encore totalement résolu, même si l'État vient de décider à fixer un délai de, je crois, dans 8 mois ou 1 an, pour qu'il n'y ait plus de Mercedes, ce qu'on appelle les Ndiaganyai. Les 32 places là vont disparaître, remplacées par des Tata montés à Thiès. Il restera la question des taxis, pour laquelle aussi un projet avait été entamé. Donc, il y a une chaîne de montage de véhicules à Dakar qui change les taxis, qui les rénove. Mais ça va aussi assez lentement. Donc, la vraie question de la pollution...
Pour vous, c'est le parc automobile. Comment vous voyez la question des transports dans vos villes, au Cameroun, Philippe Akoa?
Oui, mais en fait, ce que je voudrais également dire en ce qui concerne ces villes qui s'étendent, je pense que nous ne devons pas mettre de côté le phénomène culturel quand même en Afrique. C'est-à-dire que les populations ne sont pas toujours habituées à vivre en hauteur. Donc, pour ce qui est de la concentration. Donc, je pense qu'il est aussi question de rechercher à ce que nous puissions avoir un véritable profil de la ville africaine avec tout ce qu'elle a comme aspect culturel qu'on ne pourrait pas également donc mettre de côté. Mais je pense aussi, comme le maire de Dakar, que l'un des problèmes en ce qui concerne cette pollution, c'est aussi l'état des véhicules.
Mais est-ce qu'on va pouvoir sérieusement continuer à faire grossir les villes à l'horizontale? Quand on voit, alors là c'est pas sur le continent africain, mais la problématique est semblable, qu'une ville comme Port-au-Prince, depuis le séisme il y a quelques années, a doublé de taille en superficie à l'horizontale. Parce que les gens sont venus s'agglutiner dans la ville. Et puis, bien sûr, alors eux, ils ont des raisons d'avoir peur, de vivre en hauteur, et on sait pourquoi. Est-ce qu'on peut continuer longtemps comme ça, Alexandre Pollack?
Voilà, c'est incroyable que vous ameniez Port-au-Prince, parce que je voulais vous en parler. J'étais à Port-au-Prince pendant le séisme. Donc, j'ai vécu 3 ans à Port-au-Prince. Et le projet principal que la commission finance là-bas et termine, c'est justement celui de la route nationale numéro 3. C'est celle qui lie Port-au-Prince au nord du pays, à Cap-Haïtien. Et le but, c'était de faire passer de... Aujourd'hui, on mettait avant la réalisation 8 heures pour aller de la première à deuxième ville du pays. Maintenant, c'est 4 heures. Et ça a eu un impact. En fait, l'origine, c'était pas faire une route pour faire une route. Mais c'était évidemment, c'est un pays extrêmement concentré. C'était pour essayer de développer les échanges qui étaient très forts au niveau du plateau central pour avoir un impact économique bénéfice assez important pour développer encore plus Cap-Haïtien qui a énormément aussi de potentiel. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, en tout cas dans le domaine des transports, c'est si le gouvernement, les autorités locales nous demandent que c'est vraiment une priorité de développement et que c'est démontré en chiffres. On l'a fait, c'était le cas en Haïti. Pour le coup, c'était vraiment développer le poumon agricole qui est le plateau central d'Haïti et essayer de désengorger Port-au-Prince, qui est vraiment quelque chose de compliqué.
Très rapidement sur les transports, Jean-Pierre Léon-Bassi, j'aimerais qu'on revienne ensuite au problème des financements.
Moi, je crois que toutes les grandes métropoles d'Afrique qui ont entre 3 à 5 millions d'habitants, il y en a beaucoup maintenant. Ce qu'il faut, c'est le rail. Parce que grâce au rail, vous faites du transport de masse. Alors que avec le BRT, quand vous avez deux articulations, vous êtes déjà dans une position très difficile. Et quand vous avez des sites aussi chahutés que celui de Yaoundé, c'est difficile.
Le rail avec donc des villes qui continuent de s'étendre à l'horizontale.
Écoutez, le problème des villes qui s'étendent, c'est pas une question de décret. Les villes africaines s'étendent par addition de quartiers parce qu'on ne peut pas faire avant. C'est tout. Si vous aviez le moyen de faire avant, vous construiriez vos immeubles avant et les gens viendraient dedans.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de planification urbaine?
Non, même s'il y a une planification urbaine, il n'y a pas les moyens de prévenir l'arrivée des gens. C'est pour ça que la seule chose qu'on doit faire absolument.
Vous voulez dire, les gens s'installent et ensuite on viabilise. C'est un peu ça le sens de l'histoire.
C'est pour essayer de mettre de l'ordre avant que les gens ne viennent, qu'il faut malheureusement accepter qu'on viabilise, qu'on lotisse.
Le Maghreb a réussi à construire un peu en hauteur des quartiers sociaux.
Le Maghreb est une très vieille civilisation urbaine. C'était des villes forteresses, les Médinas. C'est exactement comme les villes européennes qui ont été construites pour se protéger de l'environnement et ça a continué. C'est une vieille culture urbaine. Ce n'est pas du tout ce qui se passe en Afrique. Les villes d'Afrique sont d'Afrique au sud du Sahara. Ça grandit par addition de quartiers et nous n'avons pas les moyens.
Les gens veulent avoir leur maison.
Philippe Akoa, oui, pour le
ce que Philippe a dit, c'est ça la vérité. Quand vous allez à Dakar, les gens ont envie d'avoir leur sens.
Vous savez, en Europe, personne n'avait l'habitude de vivre en hauteur plus. Hein.
C'est pourquoi, aujourd'hui, vous avez mis combien de temps pour faire cela? Quand vous allez en campagne, les gens ont des maisons, ils n'ont pas d'immeubles. Vous allez dans toutes les communes rurales françaises, c'est pas dans les immeubles que les gens habitent.
Vous avez mis des pavillons, vous avez tout à fait raison.
Même dans la banlieue parisienne, ceux qui sont dans les immeubles, ce sont les immigrés et les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. C'est
on cela qu'on a mis dans les immeubles. Au terme de cette émission, je voudrais vous laisser la parole à chacun en conclusion. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'aide au développement? On sait que l'aide au développement ne cesse de baisser au profit de plans climat. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette omniprésence de l'agenda climatique, on est à 6 mois de la conférence de Paris sur le climat COP21, est-ce que cela vous inquiète sur vos échéances de financement de l'aide au développement les uns et les autres? Alexandre Pollak, pour la Commission européenne.
L'approche de l'Union européenne, ses États membres et même des débats politiques est vraiment pas du tout de diviser. Ces deux questions, le respect de l'environnement, le respect du climat et l'éradication de la pauvreté, et pour ça il y a vraiment un consensus au sein de l'Union européenne de plus en plus internationale.
La France et l'Allemagne quand même semblent peser pour que les objectifs et les engagements des pays membres des Nations Unies de consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l'aide au développement, que cet engagement-là n'existe plus. D'ailleurs on en est très loin.
Non, c'est un, déjà l'Union européenne est le seul groupe dans le monde qui a cet engagement-là, donc ce serait une très bonne idée que les autres bailleurs de fonds fassent de même. On n'a rien contre le fait si les États-Unis peuvent s'engager à mettre 0,7 et la Chine faire le fait, on signe demain. Deuxièmement, c'est clair que les États ne font pas assez, ils viennent de reprendre la décision d'arriver à 0,7, mais si vous voulez, ce qui est dommage, c'est que ce débat, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Ce qui va être débattu à cette conférence d'Addis et tout ça, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, il faut que les riches continuent à faire de l'aide publique au développement, mais c'est qu'il y ait un accord sur de nouveaux objectifs du millénaire, ces objectifs soutenables, qui soient plus larges et qui disent pas c'est le climat ou la pauvreté, puisque c'est les deux faces d'une même monnaie.
Philippe Akoa, rapidement.
Oui, en ce qui concerne l'aide au développement, disons que le FECOM comme institution n'en reçoit pas particulièrement de l'Union européenne, mais de certains pays membres de l'Union européenne, nous avons une forte coopération avec l'Allemagne pour des projets communaux. Donc nous ne sommes pas exactement dans le cadre de la politique de l'Union européenne pour le fonctionnement de notre institution.
Jean-Pierre Alangbassi, en quelques mots, les villes du Sud en croissance et impliquées dans la lutte contre le changement climatique, c'est possible?
Bien sûr. Partout, nous voulons l'efficacité énergétique. Et l'efficacité énergétique, c'est toute énergie que vous ne consommez pas est efficace. Donc il faut baisser les consommations, pas au détriment du développement économique. Et c'est le choix qui, malheureusement, est parfois fait en disant, ne nous imitez pas, faites en sorte que chez vous, vous consommiez moins d'énergie. Ça veut dire, faites en sorte que vous ne vous développiez pas. Et ça, c'est un marché qu'on ne peut pas accepter. Ce qu'on dit aux pays développés, changez un peu votre mode de vie pour que chez nous, les gens puissent simplement vivre. Et si vous continuez à faire comme vous faites maintenant, et nous donner des leçons, c'est inacceptable.
Khalifa Sall, maire de Dakar.
Merci beaucoup. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne nous développerons pas par l'aide. L'aide au développement a montré ses limites. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique doit compter sur elle-même. La deuxième chose, c'est que nos partenaires du Nord nous disent, nous avons déjà pollué, donc ne polluez plus. Mais ils ont pollué pour se développer. Et les énergies qu'on nous propose coûtent cher et ne nous permettront pas de nous développer dans les conditions et les délais compatibles avec nos ambitions. Enfin, les cultes locales d'Afrique et du monde ont décidé de se faire entendre à Paris. Et l'initiative de Anne Hidalgo de réunir 1000 maires à Paris est déjà la bonne voie. Nous avions une expérience assez douloureuse à Copenhague et Anne a déjà compris. Et aujourd'hui, il y a tout un processus des cultes locales du monde pour s'organiser afin, à Paris, de pouvoir peser sur les décisions à prendre.
Merci à tous les quatre, en tout cas pour ce débat. Et bien évidemment, nous suivrons les dossiers jusqu'au fameux sommet de la COP21 dans 6 mois à Paris. Merci à vous, Khalifa Sall, maire de Dakar, Jean-Pierre Elongbassi de la CGLU Afrique, Alexandre Pollack, porte-parole de la Commission européenne en charge de l'aide au développement et de l'aide humanitaire, et Philippe Akoa du FECOM au Cameroun. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Jonas Malé-Solars, Romain Dubras. Lundi, 7 milliards de voisins, vous aurez la parole sur les transferts d'argent, plus efficaces que l'aide au développement d'ailleurs en termes de flux financiers. La concurrence est très rude maintenant entre les opérateurs avec l'arrivée de petits nouveaux. Alors, quel bénéfice pour les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers leurs proches? Vos attentes, les voisins, les voisines, vos expériences, vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À lundi, les voisins.